17 et 18 octobre 2024, la quatrième édition des journées d'études jeunes chercheurs du laboratoire C3S s'est tenue à l'UFR Staps de Besançon. Après avoir interrogé la construction de l'objet de thèse, le corps à l'épreuve de la thèse et le secret dans le processus de recherche lors des précédentes éditions, c'est la place et le rôle de la subjectivité au sein de l'enquête et dans la production des données que nous avons voulu interroger cette année. Comment les jeunes chercheurs s'emparent de la subjectivité et négocient-ils avec ? Doivent-ils chercher à s'en distancer et à s'affranchir de toute forme d'engagement émotionnel pour garantir l'impartialité des recherches et l'objectivité de leurs résultats ? Ou au contraire, peuvent-ils s'en saisir comme un atout pour produire des connaissances ? Dès lors, comment faire ? Voilà autant de questions auxquelles Marie Kergoat a pu apporter des réponses à l'occasion d'une communication intitulée « Recomposer l'histoire d'une discipline sportive, les fragments de l'escrime artistique ». Nous avons la joie de la retrouver aujourd'hui, car elle a accepté de revenir sur ce travail en répondant à quelques-unes de nos questions. Donc, merci beaucoup Marie et bonjour. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter et nous parler de ton sujet de thèse ?
Alors moi je suis Marie Kergoat, je suis une bretonne pure souche, je suis de Brest à la base, j'ai fait toutes mes études supérieures à Rennes, donc j'habite à Rennes, mais ma thèse se déroule là, je suis administrativement à l'université d'Artois, grand pôle français des études littéraires en littérature de fantasy et de jeunesse également, donc c'est vraiment la partie fantasy qui est mon socle. Ma thèse, je l'ai commencée il y a de cela deux ans presque et demi. Normalement, elle devrait se faire en 4 ans. En tout cas, je fais tout pour. Elle s'intitule « Patrimoine au prisme de l'imaginaire, l'escrime de fantasy et vos présentations et pratiques ». C'est une thèse qui se déroule dans deux disciplines, la littérature comparée, qui est une de mes formations de base, sachant que je suis aussi formée aux études anglophones. Je fais une prépa et j'ai pas su choisir, et du coup, je suis allée jusqu'au master dans deux voies différentes, donc littérature comparée et anglais. Et également, on a du spectacle via la discipline qui est l'ethnocénologie. Donc pour l'occasion, je me suis formée aux arts du spectacle lors de l'année de préparation du dossier de candidature pour obtenir un contrat de thèse en effectuant une licence 3 arts du spectacle à Rennes 2. Et j'effectue mon service de cours à Rennes 2 également. Voilà.
Ok, super. Alors du coup, comment tu t'es confrontée à la question de la subjectivité dans ta recherche ?
C'est assez intéressant. Toutes tes questions sont intéressantes, comme je les ai déjà, je sais, mais parce que elle est née par une forme de subjectivité déjà, l'idée de cette thèse. C'est-à-dire que j'étais quelque part en train de réviser mon mémoire, j'étais chez moi le soir, j'ai fait des lectures de fantasy parce que c'est ce que je lis en plus du boulot, et que c'est une passion. Et je lisais un ouvrage d'une autrice que j'aime beaucoup et qui a rejoint mon corpus de thèse, qui s'appelle Helen Kushner. C'est une autrice états-unienne et elle a écrit un livre qui s'appelle Source Points, à la pointe de l'épée en français. Et en lisant le bouquin, je me suis dit, mais une thèse sur l'escrime en fantasy, ce serait quand même top, ça m'intéresserait beaucoup. Et du coup, c'est parti. Cette thèse, elle est née d'un moment de loisir personnel où j'étais vraiment simplement en train de subjectivement adorer une lecture. Donc c'est tout pour le départ, mais sinon, par rapport à ce que tu évoques, la subjectivité, elle se concentre principalement dans la partie art du spectacle et cétocénologie de ma thèse. Donc en gros, moi je travaille sur la manière dont le patrimoine matériel et immatériel, qui est l'escrime historique, est investi en fantasy pour construire les univers et comment elle est représentée, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, comment c'est écrit, c'est quelles armes, c'est quelles époques, etc. Donc je travaille sur la manière dont l'escrime est un socle de construction du world building de fantasy, notamment. J'essaie de synthétiser au maximum. Et la partie ethnocénologie, art du spectacle, elle touche à la recherche en création de mon travail, car la partie art du spectacle est la partie recherche en création. Et l'idée, ça représente à peu près un tiers, un quart de mon travail, c'est de prendre des textes de mon corpus de littérature comparée, donc mon corpus de fantasy dans lequel j'étudie la convention d'escrime, et d'essayer de les mettre en escrime, comme j'aime à le dire, Donc, de reproduire les combats, des combats sélectionnés moi-même et avec des partenaires. Parce qu'à côté, je suis escrimeuse artistique et escrimeuse historique. Et c'est ce qui fait qu'il y a toute cette partie recherche en création, c'est que de base, parce que je suis escrimeuse maintenant depuis 8 ans, j'avais des bases de connaissances pour effectuer cette recherche en création. C'est ce qui l'a motivée. Et donc, j'utilise ces compétences pour ma recherche en création, mais j'ai dû sortir ma propre subjectivité pour avoir vraiment un cadrage scientifique solide. En me disant, ok, bon, pour moi, l'escrime artistique, c'est ça, je le pratique comme ça dans ma salle, le vendredi soir, le jeudi soir, le mardi soir, etc. Mais c'est quoi en vrai? C'est quoi l'histoire de la discipline? Pourquoi elle est née comme ça? Pourquoi je la pratique comme ça? Et donc, j'ai, pour contextualiser tout ce travail de recherche en création, fait un long travail, ce que je suis en train de réaliser actuellement, de recherche sur l'histoire de la discipline, l'évolution de celle-ci, ses motivations, etc. Et donc, dans ce cadre, j'ai mené plusieurs entretiens avec des maîtres et maîtresses d'armes, donc des enseignants et enseignantes d'escrime artistique, pour essayer de recomposer l'histoire, parce qu'il y a peu de sources. Il y a quelques autoristes qui ont proposé des manuels d'apprentissage de l'escrime artistique, mais ce n'est pas des ouvrages sur l'histoire de la discipline. Et quand on pose la question à un maître ou une maîtresse en salle d'armes, on se rend compte que c'est assez lacunaire et qu'il manque des mots. Et donc, il faut la recomposer. Donc, ma part de subjectivité, elle se concentre à la fois dans ce côté recherche en création, où c'est moi qui vais interpréter les textes, avec une méthodologie que je mets en place, etc. Et en même temps, parce que j'ai dû changer ma perspective autour de l'escrime artistique pour avoir une approche plus globale, parce que sinon, je passais à côté de plein de choses. Mais en même temps, j'ai utilisé ma subjectivité pour ça, parce que le réseau, je l'ai constitué à partir de connaissances de base, de gens que j'ai croisés en salle, etc. Et donc, tout se mélange un peu. J'utilise ma subjectivité pour essayer de construire une méthodologie scientifique et inversement. Voilà.
Ok. Et c'est quelque chose que tu as explicité, enfin, tu t'es assez vite rendu compte de ce besoin de dépasser ta subjectivité. Enfin, la question que j'ai envie de te poser, c'est quand est-ce que tu t'es posé cette question-là d'interroger ta propre subjectivité dans la recherche? Est-ce que c'est arrivé assez vite que tu as pu exprimer ça, ou c'est plus tard, voire même quand tu t'es intéressé à l'appel à communication de la journée d'études du coup dédié à la subjectivité, ou c'est des questions que tu t'étais déjà posées en amont et qui te semblaient déjà centrales, que tu avais déjà explicitées, qui étaient déjà claires pour toi?
Je dirais que ça s'est fait en 2 temps et demi. Le premier temps, c'est quand j'ai commencé à la fois faire des fragments de recherche en création, essayer de faire les premières ébauches de création de duels en spectacle vivant, enfin pratique vivante, à partir des textes littéraires. Et dans le même moment, je commençais déjà à faire des entretiens. Et donc j'avais déjà commencé à me dire, ok, bon. Il y a la pratiquante et il y a la doctorante. Comment on fait? Comment on mêle les deux? Parce que, pour le premier exemple, quand on a adapté le texte d'escrime, la pratiquante, elle va avoir envie parfois de plutôt faire tel geste à tel rythme parce que ça rend mieux. Parce que moi, j'ai l'habitude de faire du spectacle d'escrime, donc de la scène, et je me dis, ah, ça rendrait bien. Mais ce n'est pas dans le texte, et donc il faut bien, bien rester dans les clous et faire attention à tout ça. Et en même temps, c'est mon bagage. Une directrice de thèse appelle ça la vallée dramaturgique. Ça vient d'une théoricienne que j'ai plus en tête là, mais en gros c'est dans mon bagage. Et donc je l'utilise pour appréhender au mieux les textes. Donc je comprends mieux certains passages parce que je suis pratiquante de base. Et en même temps je dois un peu faire attention à ne pas lâcher les chevaux parce que sinon je peux partir un peu trop loin. Donc il y a une forme de vigilance tout le temps à avoir sur ça et j'ai créé des méthodologies spéciales pour me cadrer. Et en même temps il y avait les entretiens. Et les entretiens ont commencé, et très vite, du coup, je me suis retrouvée à faire des entretiens avec des personnes que je connaissais. Parce que c'est soit mes enseignants-enseignants, soit je les ai croisés en stage, soit j'en ai entendu parler, et avoir entendu parler quelqu'un, c'est souvent dire avoir entendu des rumeurs. Et donc, comment est-ce qu'on dépasse ça, et comment est-ce qu'on essaie de mener l'entretien de manière vraiment doctorante, pas pratiquante. Et donc c'est ce que j'explique quand j'en parle à des amis et des collègues, il y a vraiment ce truc de. Des fois quand je suis en entretien, l'escrime artistique c'est un tout petit monde, mais il y a des fortes personnalités qui sont pas forcément d'accord entre elles et qui parlent. se déroulent ces questions qu'on a bien préparées, qui sont déjà pour tout le monde, etc. Et on entend des choses et on se dit, je vais rester vraiment doctorante, mais la pratiquante en moi, elle est. C'est dur, quoi. Et on essaie de limiter. Et donc, il y a vraiment ce truc de parvenir à garder sa casquette. Après, quand on a conscience, ça va. C'est, enfin, pour moi, ça va parce que justement, j'arrive à garder bien le cadre, etc. Mais le pire, c'est la poker face, quoi, à garder. Et le deuxième temps et demi, c'est quand j'ai commencé à rédiger. C'est la première partie de ma thèse que j'ai rédigée, c'est la partie sur la méthodologie de la recherche en création et de l'ethnocénologie, où j'avais fait une première ébauche et j'avais eu les retours de mes directrices, principalement ma directrice Nathalie Gothard, qui est elle spécialisée en spectacle en ethnocénologie. Il manquait des choses et des autoristes, notamment sur la question du terrain, sur la question de la subjectivité. Et c'est des choses que je n'avais pas conceptualisées au niveau théorie encore. Donc j'avais conscience de certains éléments, certaines choses, mais je n'avais pas mis les mots dessus et je ne les avais pas à ce point verbalisées. Parce que même si je les avais repérées, je n'avais pas fait un bout de méthode. Et donc elle m'a invitée à développer cette partie-là. Et ça tombait très bien parce que la journée d'études tombait au même moment. Et du coup, j'ai cumulé les deux. Donc, la journée d'études m'a aussi aidée par rapport à ça. Notamment le fait de parler avec des personnes qui, elles, sont confrontées à la question du terrain au quotidien. Quand je suis avec les gens de C3S ou d'Ayam, ça me fait toujours beaucoup rire parce qu'il y a toujours tellement de blagues sur le terrain, le fameux terrain, mais le terrain RMH, le terrain PUC, etc. Et ça m'apporte beaucoup parce que moi, je suis une formation littéraire et d'études d'anglophone à la base. Donc, ce n'est pas du tout des éléments que je maîtrisais ou dont j'avais connaissance et que j'ai découvert, notamment en croisant les d'autres disciplines telles que celles proposées au laboratoire C3S.
Ok, super, super intéressant. Et du coup, tu as déjà donné pas mal d'éléments de réponse à ce propos, mais et notamment, tu es revenu sur les atouts de ta subjectivité, de ton côté pratiquante. Mais est-ce que tu peux revenir sur le côté obstacle et dans quelle mesure ça a été un obstacle, en tout cas quelque chose qui t'a posé problème et que tu as essayé de résoudre
Elle a été souvent un atout. Parce que le fait d'être déjà pratiquante et de connaître des gens, ça ouvre les portes du réseau, en gros. Mais bon, ça permet de connaître machin, qui connaît machin, qui connaît machin, qui te file son mail, qui te file son machin. Ou alors tu as croisé le grand maître d'armes, fils du grand maître d'armes en stage, et du coup, il connaît ta tête, et du coup, il accepte que tu fasses business. Et du coup, il y a un truc de... c'est plus simple d'avoir les entretiens parce que tu viens non nulle part. Tu fais déjà partie de la famille Escrime. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'en ai. C'est vraiment un tout petit milieu, du coup, les gens se connaissent, finissent par se connaître à force de brûlinguer en stage, quoi. Je dirais que les moments où ça a été peut-être plus dur, ma subjectivité, c'est peut-être le côté, selon certains cas, selon certains éléments, le fait d'être une escrimeuse, qui, du coup, peut-être, en tout cas, ça m'est arrivé en stage, donc c'est pas exactement... lors des entretiens ou lors de mes recherches précises, mais quand j'essayais de poursuivre ma formation à la fois à titre personnel et à la fois pour la question du terrain simplement, donc l'idée de rencontrer des gens, j'ai quand même senti un truc c'est un peu différent parce que quand je vois des collègues hommes par rapport à ça, c'est pas forcément la même appréhension des choses et la même porte qui s'ouvre ou les mêmes retours de quota. Bon, ça là, je l'ai un peu vécu, mais je la vis assez au quotidien aussi, dans ma vie pratiquante, en fait, simplement. Donc, c'est pas forcément un frein à la recherche, c'est plutôt une donnée dont j'ai conscience et je joue sur les règles de ce jeu, donc je sais qu'il y a des choses où on va peut-être parfois creuser plus loin, aller plus loin, et tolérer certaines blagues, et puis voilà, quoi. Sinon, je dirais pas que ça a été un frein, vraiment plutôt une aide assez forte. Je pense que, très clairement, si l'idée de cette thèse avec une partie ethnocénologie, recherche en création, elle vient de mon autre directrice, Anne Besson, donc une directrice de littérature comparée, qui connaissait déjà mon profil et mon parcours, parce qu'on s'était vu plusieurs fois avant, et qui m'a dit, mais comme tu es une pratiquante d'escrime, ce serait hyper intéressant que tu ajoutes cette partie-là et d'en faire une force. Du coup, je ne l'ai pas vu comme un frein vraiment dans notre subjectivité. C'est plutôt une donnée à prendre en compte, à ne pas oublier. Mais ce n'est pas un frein.
Et du coup, ce que tu disais, c'était intéressant, c'est que tu savais déjà certaines choses sur des maîtres d'armes, tu avais entendu des rumeurs, et du coup, la question, c'est comment tu faisais pour jongler entre ce que tu savais déjà, mais en même temps, tu essayais, il me semble, de faire en sorte que ça n'influence pas ta lecture, et puis la façon dont tu menais les entretiens avec ces personnes-là. Du coup, comment tu as géré cette tension entre le fait d'avoir déjà des informations sur les personnes, et puis enfin d'avoir, oui, c'est un point de vue subjectif sur ces personnes, et comment tu as géré cet aspect-là?
En fait, j'ai géré en essayant, j'espère l'avoir fait, en me comportant et en traitant toutes les personnes avec qui je me suis entretenue de la même manière. C'est-à-dire que j'avais une même liste de questions qui était exactement la même pour tout le monde et je posais exactement les mêmes questions. Et c'est des questions qui sont très ouvertes. Donc l'idée, c'est vraiment de recueillir les opinions, les expériences, les vies de ces personnes-là et d'avoir en fait leur point de vue sur ces questions. C'est vrai qu'il y a des fois où je savais que bon, c'était questionnable, c'était pas forcément quelque chose de très très sourcé ou très très bon, mais je n'allais jamais essayer de confronter sur des choses comme ceci ou comme cela, parce que pour moi, c'est pas intéressant. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de recueillir un max, max, max de données et d'expériences. Et ensuite, c'est moi qui fais ce travail-là de tri, notamment, simplement, une info qui est très, très catégorique, très, très sûre, apparemment, etc., je vais la mettre dans mon essor d'esprit artistique que si j'ai une source. Une vraie source qui l'atteste. Sinon, pour moi, ça va être considéré comme de la mémoire orale et elle ne sera considérée comme juste que si j'ai des croisements d'expériences et de discours sur ça. Donc, je vais simplement essayer d'avoir l'histoire essentielle que je compose à partir de ces entretiens et des sources que j'ai à côté, vraiment de limiter à qu'est-ce qui revient le plus souvent, qu'est-ce qui semble être une information sûre, est-ce qu'il y a des documents qui les attestent ou pas? Bon, c'est pas souvent le cas, mais par exemple, des choses comme les dates ou à quel moment est-ce que telle chose a été mise en place, ça se retrouve. C'est dur, ça se retrouve. Et pour le reste, ce qui compte, ce qui va être plutôt les avis personnels, ce qui va être les opinions sur certaines personnes aussi, parce que certains vont pouvoir lancer des choses sur d'autres gens, parce que sinon c'est pas rigolo. Et ça, je vais toujours les supprimer. Enfin, je vais jamais en tenir compte. Et peu importe ce que je pense de la personne à la base, ça vaut pour tous les entretiens que j'ai faits. Tout ce qui est de l'interpersonnel, tout ce qui est de la question moi j'ai fait ceci, mais on me dit que j'ai pas fait ça, etc. Je m'en fiche. Enfin, vraiment, je pars du principe que. Enfin, je prends ma casquette doctorante et je m'en fiche complètement. Vraiment, c'est pas mon sujet. Je le note parce que c'est intéressant, mais voilà, mais ce sera pas. Utiliser comme une source ou comme une matière dans mon travail. Bien sûr, il y a la pratiquante après qui se rappellera tout ça, mais bon, après, c'est mon boulot de séparer les choses entre ce que je connais des gens via des stages, etc., et ce qu'ils me disent en entretien. Évidemment, c'est de la vie professionnelle, c'est de la vie de loisir et personnelle, donc on sépare les deux. Et ouais, vraiment, je traitais tout le monde pareil, vraiment, tout le temps. Jamais essayer de voir la vie sur tel truc ou tel truc ou tel truc, ou si vous avez des petites infos que ça, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Garder vraiment que ce qui sert l'histoire de la discipline que je mène en fait.
Oui, donc en fait, pour faire l'histoire de la discipline que tu étais en train de faire, la subjectivité des pratiquants, c'était quelque chose dont tu l'éloignais et qui n'était pas lié à ta problématique et en fait à ton projet de recherche historique.
Elle est utilisée néanmoins. Enfin, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est leur. T'as raison de souligner ça, parce que j'avais oublié ce point-là. Il y a une subjectivité des avis chez eux qui m'intéresse énormément, c'est leur perception de l'escrime artistique et de son public. Ça, pour moi, c'est hyper important. Et ce que je fais, c'est que ça, je le garde. Et en fait, c'est parce que c'est ce qui compose l'esprit narcissique actuel ou passé, parce qu'en fait, c'est très très souvent des enseignants, enseignantes que j'ai en face de moi. Il y avait aussi quelques pratiquantes très très moteurs, motrices, et des cadres administratifs, donc pas tous des enseignants maîtres d'âme. Mais la façon dont il ou elle conceptualise l'esprit narcissique et son public va influencer la manière dont ils enseignent. Et du coup, c'est vraiment un effet de rebond. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de différences d'une région à l'autre, d'un club à l'autre, sur comment c'est fait. Parce que ça va beaucoup dépendre de leur subjectivité. Et par contre, celle-là, elle m'intéresse.
Ok. Oui.
Mais les gars, je fais non.
Voilà, c'est ça. Mais je me dis que des fois, ça doit être peut-être dur aussi de faire la différence entre ce qui résulterait d'une guéguerre de chapelle et donc un avis complètement subjectif d'une amitié ou au contraire d'une désappréciation d'un autre pratiquant la définition de ce qu'est la discipline et de la définition factuelle des événements qui composent la discipline. Parce que, est-ce que ça a pu arriver, je sais pas, mais que... En fait, il y a des guéguerres de chapelle, mais sur la façon de concevoir, sur des événements bien précis, où justement les pratiquants ne sont pas d'accord sur un événement très factuel qui serait arrivé.
Il suffit de consulter les pages Facebook d'escrime artistique et les différents forums pour s'en rendre compte. Ça, c'est constant dans la pratique. Il y a tout le temps des guerres de chapelle et des tensions sur comment ça doit être fait ou pas être fait. Il y en a qui sont très très vindicatifs sur comment il faut faire, très prescriptifs. D'autres qui sont descriptifs, mais c'est toujours pareil en fait. C'est les personnes prescriptives qu'on entend plus et les descriptifs qu'on entend moins, parce qu'il y en a qui prônent quelque chose et d'autres qui s'intéressent un peu à tout et qui acceptent tout. Mais... Donc il y a des voix qu'on entend très fort et les voix plus silencieuses. Et ça, il y en a tout le temps, mais même en dehors de ma casquette de doctorante. En stage, ça m'est arrivé d'entendre ce que j'appelle des dingueries, vraiment. Ici, on fait comme si, pas comme dans telle salle, parce que ça, c'est nul. Ce que fait machin, c'est nul. Du coup, on fait comme ça. On s'en fiche, on n'est pas là pour ça. Mais c'est plutôt fréquent.
Ouais.
C'est de moins en moins fréquent, quand même. Parce que c'est une question de personnalité, une question d'époque aussi, et une question de génération. Ouais, moi, le sentiment que j'ai, c'est que les jeunes générations d'enseignants enseignantes sont de plus en plus dans l'ouverture et la description.
Ok.
Donc ça, c'est assez cool.
Non, super, super intéressant. Et est-ce que, du coup, je reviens... un peu plus de manière générale sur la subjectivité et puis sur la journée d'études à laquelle tu as participé. Est-ce que ta perception sur la subjectivité, elle a changé au cours de la journée d'études? Ou même en lisant l'appel à communication, puis en préparant ton travail, est-ce que tu sens que ça a évolué au cours du processus de travail lié à cette journée d'études ou pas forcément?
Je dirais pas que ma perception a changé, mais que je me suis sentie moins seule. En fait, c'est délicat parce que j'avais déjà beaucoup, beaucoup parlé avec des personnes comme Orlane et Sacha et toi avant, donc, et Audrey, bien sûr. Donc, j'avais déjà des connaissances sur subjectivité, terrain, comment est-ce qu'on fait. Je les avais déjà entendu parler de tout ça, donc c'est des choses que j'avais déjà découvertes. J'avais déjà connaissance. Mais vraiment... Par contre, l'intérêt de la GIE, c'est que ça m'a apporté un sentiment de bien-être, ouais, je crois, je peux dire ça, à me dire, c'est hyper intéressant parce qu'on est plusieurs à être confrontés là-dessus et on n'est pas chez nous. En fait, on est plein, 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 et c'est hyper chouette. Et j'ai l'impression de trouver une communauté aussi, je pense, quelque chose comme ça. Voir partager sur ces questionnements, etc. Parce que, comme je disais, moi, je suis des études littéraires à la base, et anglophone, du côté littérature, pas civilisation. Et c'est pas des questions qu'on a tendance à se poser. Et donc, moi, je suis dans mon local de doctorante RN2, avec qui je fais des missions, d'ailleurs. C'est pas des questionnements qui vont forcément émerger. Et du coup, ça fait du bien d'être dans un cadre où on peut se poser ces questions et ça fait, même si je ne m'en suis pas rendu compte forcément, évoluer la pensée. Ça, c'est certain. Voilà.
Ok. Et alors, du coup, est-ce que tu aurais des conseils à donner à un jeune chercheur ou une jeune chercheuse concernant l'appréhension de la subjectivité au cours de la thèse?
Il faut lâcher rire, voilà. Et le plus important, pour moi, ça va être de ne pas la fuir. C'est complètement se fourvoyer que d'essayer de fuir et de casser la subjectivité, de dire qu'il n'y en a pas, ou d'essayer de faire en sorte qu'il n'y en ait pas. C'est pas possible. C'est pas possible, et ça vaut pour plein de disciplines, hein, pas forcément celles qui se posent la question de terrain. On a toujours, et c'est pas parce qu'il y a une subjectivité qu'il y a une absence ou une perte d'aspect scientifique, parce que la science est effectuée par des personnes et les personnes sont des êtres subjectifs. Donc vraiment plutôt d'essayer de très vite se poser la question de la comprendre, de comment l'appréhender, de comment la gérer, de voir où est-ce qu'elle intervient, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on peut en faire. En fait, la prendre à bras le corps d'office et pas la considérer d'un œil négatif.
Ok. Et alors, on se projette, mais la prochaine journée d'études jeunes chercheurs organisée par les jeunes chercheurs du laboratoire C3S sera dédiée à la question de la créativité dans la recherche. Et du coup, quelle place tu penses, toi, accorder à la question de la créativité dans ta recherche? Et du coup, je pense que tu as un point de vue super intéressant et qui va être vraiment enrichissant parce que tu as cet aspect création lié à ton origine disciplinaire. Donc comment tu envisages cette créativité?
Recherche en création, en fait. Donc, c'est déjà très très fort, très très marqué. Je la considère comme un point essentiel de mon travail, parce que même si à la base je ne pensais pas du tout faire de la recherche en création dans ma thèse, je me rends compte à quel point elle est essentielle. À quel point c'est essentiel de créer les scènes de duel qui sont dans les bouquins pour mieux les comprendre, pour voir ce que ça raconte, ce que ça dit, et des auteurs, et des esthétiques, et de l'univers, et de. Donc maintenant, je la considère comme une chose essentielle. Et à côté de ça, en plus, il y a la pratiquante qui s'y met parce que c'est arrivé là récemment. On a créé avec des comparses, enfin, avec mon conjoint avec qui je fais de l'escrime, c'est là qu'on s'est rencontrés, et un ami à nous. On fait ensemble une recherche en création autour d'un de mes textes. Parce que je ne peux pas faire les interprétations seules, vu que bah, c'est des duels, il faut être au moins deux. Voilà. Et il y a une interprétation, une recherche en création qui nous a tellement, tellement plu et qu'on trouve tellement chouette. C'est un texte qu'on aime tellement à titre individuel qu'on s'est dit non, mais en fait, on va en faire un mini court-métrage. Et ce truc-là, il ne sera pas dans ma thèse parce que bah, ce n'est pas du tout dans mon cadre méthodologique, etc. Mais la corée qu'on établit à partir du texte, on va la garder. On va garder ce travail de recherche création qui a été fait et ajouter par-dessus les costumes, le décor, le château, etc. Et on va faire un mini court-métrage qu'on devrait tourner durant un temps de vacances au printemps. Voilà. Donc par exemple, des fois la créativité elle déborde et elle fait non, en fait il faut aller plus loin.
Ouais, super. Et du coup, il va jusqu'à la diffusion des résultats de recherche. Et d'ailleurs, ce court-métrage, il se destine plutôt à quel public? Plutôt à des chercheurs ou à un public qui serait extérieur à l'université, mais qui est simplement intéressé par votre sujet de recherche?
Le mini court-métrage, qui sera vraiment très très court, je pense, c'est vraiment plutôt pour les gens qui ont envie de voir une scène de combat historique. Vraiment, c'est pas du tout destiné au public de chercheurs, chercheuses, parce que la partie recherche en création l'est, même si elle peut aussi être destinée aux pratiquants d'escrime artistique, parce qu'ils comprendront en fait ce qui se passe là sur cette page internet. Étrange, oui, chorégraphié dans tous les sens. Mais le court-métrage, c'est vraiment destiné aux personnes qui aiment voir ce genre de petits objets-là. Et aussi au public fan du bouquin de base, je pense.
Ok. Eh bien, on approche vers la fin de ce podcast et c'est le moment de passer à la conclusion. Donc, merci infiniment, Marie, d'avoir répondu à nos questions, aux questions qu'on a posées à tous les participants de cette journée d'études sur la subjectivité. Et
Merci à toi.
pour conclure, est-ce que tu aurais quelque chose à dire? C'est pas forcément, pas obligé, je te prends peut-être un peu de cours, mais est-ce que y a quelque chose qui te tient à cœur ou sur lequel tu voudrais réinsister?
Ayez confiance en vous et en vos projets de thèse.
Super. Ben, merci infiniment, Marie, sur cette belle conclusion. Merci. Et à très vite.
Merci.
Merci d'avoir suivi ce podcast qui vous a été proposé par les jeunes chercheurs du laboratoire C3S. Nous vous invitons à découvrir l'ensemble des épisodes de cette journée comme des précédentes qui ont eu pour thème la construction de l'objet de recherche durant la thèse et le corps à l'épreuve de la thèse.